Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral.
Ma première histoire est une histoire de la mythologie grecque dont je ne vous dirai pas le titre car ce serait dévoiler la fin. Ce jour-là, il fait chaud. Callisto, la jeune nymphe, a posé son arc et son carquois. Elle est fatiguée, elle a dansé toute la nuit avec ses compagnes, celle d'Artémis, la déesse chasseresse, et au matin, elle est allée chasser avec cette dernière. La chaleur est épouvantable. Alors quand elle voit un bosquet, et son ombre surtout, elle va s'étendre après avoir posé l'arc et le carquois, et elle s'endort. Là-haut dans les cieux, au royaume des dieux, Zeus est de très très mauvaise humeur. C'est que la veille, il a dû punir un jeune présomptueux qui a emprunté le char de son père, le dieu soleil, et en s'approchant trop près de la terre, Zeus a dû le punir. Alors, pour se distraire, il va arpenter la terre, non seulement pour changer d'idée, mais aussi pour voir les dégâts. Et tout d'un coup, son regard s'arrête sur cette jeune forme alanguie à l'ombre d'un buisson. On le sait, Zeus est le plus grand des prédateurs. Et quand il voit cette forme féminine épanouie, est belle, tout de suite, il la désire. Il descend et sous son regard, Callisto se réveille. Aussitôt, le reconnaissant, elle saute sur ses pieds. Elle a peur, car elle connaît sa réputation. Lui, c'est le roi de la métamorphose. Ses désirs doivent être exaucés, quel qu'en soit le prix. Alors Callisto lui dit bonjour et lui dit tout de suite « Je suis la compagne de votre fille Artémis ». Elle espère ainsi que, en disant le nom de sa fille, elle va l'éloigner. Mais Zeus n'en a cure. Ce jour-là, il a besoin de se détendre comme il pense et elle fera bien l'affaire. Alors, il essaie d'abord de la séduire, mais à chaque fois, elle dit non. Lui n'en a cure, et au bout d'un moment, puisqu'elle ne veut pas, il en abuse. Puis il s'en va. Callisto se retrouve seule. Elle ne peut parler de cette aventure à personne. Aucune des nymphes n'accepterait cette situation, et pas même Artémis, surtout Artémis, digne fille de son père. Alors, elle ne dit rien, elle reste avec ce secret. Elle continue à danser la nuit avec ses compagnes. Elle continue à chasser le matin. Jusqu'au jour où, après la chasse, Artémis lui propose d'aller se baigner à la rivière proche. Et là, quand elles sont dans l'eau toutes les deux, Artémis s'aperçoit que le ventre de sa compagne s'arrondit. Alors, furieuse, elle lui demande ce qui s'est passé, même pas parce que quand Callisto essaie de se défendre, eh bien, Artémis la chasse. Callisto se retrouve dans la forêt où elle n'a plus rien à faire, sinon à attendre ce fruit d'un amour défendu. Et jusqu'à la naissance, elle erre tristement. Mais le jour de la naissance, c'est un garçon, un petit garçon beau. Elle retrouve sa gaieté, elle le nomme Arcas. Pendant 15 jours, cachée dans les bois, car elle craint la jalousie de la femme de Zeus, elle allait son enfant, se promène avec lui, lui sourit. Jusqu'au jour où les pleurs du nourrisson alertent Héra là-haut. Et quand elle entend un nourrisson, souvent, elle pense que c'est un rejeton de son infidèle de mari. Alors, elle descend. Et là, quand elle voit Callisto si belle, elle n'en doute plus, alors elle l'apostrophe violemment. « C'est encore mon mari !» Callisto veut se défendre, veut dire qu'elle ne voulait pas, qu'elle a refusé, mais Héra, folle de jalousie, d'un geste, la transforme en ours et lui enlève son petit. Pendant des mois, des années, Callisto va errer dans la forêt. Elle connaît les ruses de ses compagnes chasseresses et leur échappe. C'est une vigilance sans faille. Dans son apparence, elle est une ours, mais dans sa tête, elle reste une nymphe, une femme et une mère. 15 ans après, sur le sentier devant elle, un jeune homme s'avance. Elle s'avance aussi, son cœur est ému, elle le regarde, ses yeux, mais Arcas. De sa bouche sort un grognement. Le jeune homme s'est arrêté sur le sentier. Il a peur de cet animal et en même temps, une étrange douleur lui étreint le cœur. Mais face à l'ours qui vient de grogner, il sort une flèche de son carquois et il vise. À ce moment-là, dans les cieux, Zeus, pris de pitié pour ces deux-là qui, après tout, n'ont rien fait, d'un geste les envoie vers les cieux, unis à jamais la mère et le fils. Et quand vous levez la tête dans notre hémisphère pour regarder le ciel, vous ne pouvez pas les rater, la grande ours et la petite ours, unis pour toujours. Cette histoire est tirée d'un livre qui s'appelle « Histoire fantastique des Hautes-Alpes ». Et je ne vous dirai le titre qu'à la fin, car autrement ça dévoile encore une fois la fin. Ce jour-là, il faisait chaud, encore une fois. Et quand elle est arrivée au village, elle était toute en sueur, toute rouge, tout essoufflé. Faut dire que le chemin qui monte au village, il monte, mais il monte vraiment. Quand elle est arrivée au village, c'était l'heure de la sieste. Elle s'est avancée, toutes les persiennes étaient fermées, il n'y avait personne. Alors elle a continué. Elle est arrivée au bout du village, et là, la dernière maison, sous le porche, à l'ombre, il y avait un petit vieux et une petite vieille assis. Et la porte de leur couloir était entrouverte. Ça devait faire un courant d'air. Alors elle s'est avancée. Eux, depuis qu'ils l'avaient vu monter le sentier, à cette heure-là, ils s'étaient dit qu'elle n'était pas d'ici, que c'était une étrangère. Mais en la voyant comme ça, toute rouge, tout essoufflée, tout en sueur, les cheveux collés sur le visage, la jupe collée sur les cuisses, ils sont levés et lui ont dit « Vous voulez vous asseoir ?» Elle a dit « Je veux bien. » Et puis lui, il a dit « Vous avez soif ?»« Oh oui !» Alors il s'est levé, il est entré dans la maison. La petite vieille l'a suivie. Elle est revenue avec un verre et lui avec une bouteille pleine d'un liquide rouge clair. Il a versé et quand le verre a été plein, il lui a tendu le verre. Mais ma foi, elle l'a bu d'un trait. Puis elle a levé la tête, surprise. C'est bon, ça. Qu'est-ce que c'est ? Ben, le petit vieux et la petite vieille, ils sont regardés. Quand on vit ensemble depuis si longtemps, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Et ils se sont dit, si on lui dit que ça c'est du vin de notre vigne, peut-être qu'elle va lui jeter un sort, c'est une étrangère. Alors, je ne sais pas lequel des deux a dit en regardant et en montrant un buisson de ronces qui était là devant la maison, il a dit, oh ben ça, c'est du jus de mûr, du jus de notre ronce là. Elle a dit, mais c'est drôlement bon. Il lui a resservi un verre, et comme elle avait soif, elle l'a bu à nouveau. Et puis, elle leur a dit, vous avez été accueillant avec moi. Vous m'avez offert à boire, moi aussi je vais vous faire un cadeau. Le petit vieux et la petite vieille se sont regardés. Et elle a dit, vous voyez votre ronce là, qui donne des mûres, qui donne du si bon jus. Eh bien maintenant, quand une branche va toucher le sol, elle va repartir. Comme ça, du bon jus de mûr, vous pouvez en faire comme vous voudrez. Oh ! Le petit vieux et la petite vieille, ils sont regardés. Mais l'étrangère, elle était déjà repartie. Eh ben, on va dire que c'est depuis ce temps-là que les ronces, ça pousse un peu mieux que la vigne. Et sans travail encore. La vigne et la ronce, un conte que j'ai entendu d'une conteuse de l'Isère, Elisabeth Calandry. Marie. La première fois que Marie a vu Jean, c'est pas compliqué, elle était sûre que c'était le bon. Faut dire que quand Jean lui parlait, Marie se sentait intelligente. Quand Jean la regardait, Marie, elle se sentait belle. Quand Jean l'emmenait au bal le samedi soir, Marie, elle se sentait poussée des ailes. Dans le pays, on les appelait les amoureux. C'est pas compliqué. Quand on voyait Marie, on voyait Jean. Quand on voyait Jean, on voyait Marie. Et puis il y a eu ce jour où pour la première fois, Marie s'est offerte. Ce jour où pour la première fois, Jean l'a prise avec infiniment de douceur, infiniment de caresses, infiniment de tendresse. Ce jour, Marie, elle a senti la terre trembler sous elle. Elle a pleuré. Que trop de bonheur. Alors forcément, quand Jean lui a demandé si elle voulait bien l'épouser, Marie, elle a dit oui. Tout le village était invité à la noce. Ça, le mariage de Jean et de Marie, on s'en souviendra longtemps. Vous savez bien, le jour du mariage, toutes les mariées sont belles. Elles sont belles parce qu'elles sont heureuses. Marie, ce jour-là, elle éclaboussait le monde avec son nouveau bonheur, tellement elle était heureuse. Dans les jours qui ont suivi, à nouveau, c'était bonheur que de les voir tous les deux. Tous les matins, Marie, elle accompagnait son Jean jusqu'à la barrière du jardin, et elle le regardait partir, là, sur le chemin. Et pour elle, commençait sa journée de femme. Alors bien sûr, il y avait le ménage, la lessive, les bêtes, le jardin, les repas à préparer, le bois. Mais Marie, elle faisait tout ça sans même s'en rendre compte. Marie, elle passait ses journées à se réciter le corps de Jean. Elle le connaissait par cœur. Elle se récitait ses tendresses, ses caresses, et le soir, quand Jean rentrait et qu'elle le voyait dans l'embrasure de la porte,
T'as passé une bonne journée, mon Jean ?
Oui, Marie. Et toi ? Ce n'était que tendresse, douceur. Le bonheur, quoi. Faut bien que ça existe. Au travail de Jean, ses copains, ceux qu'il voyait avant, ben, ils étaient bien un peu jaloux. C'est que depuis que le Jean y s'était marié, il ne voyait plus beaucoup. Toujours, il se dépêchait de rentrer à la maison. Plus de parties de cartes, plus d'apéro. Alors, ils ont commencé à le charrier. « Dis donc, elle va pas s'envoler, ta Marie. Elle t'attend à la maison. De toute façon, tu la retrouveras bien. T'es pas prisonnier, quand même. Montre-lui que c'est toi l'homme. Tu fais bien ce que tu veux, après tout. » Jean, il avait un peu honte d'écouter tout ça. Il disait trop rien. Il avait bien envie de rentrer, mais il était peut-être un peu faible. Puis, il avait sa fierté. Il a commencé à s'attarder. Marie, elle sentait bien la différence, mais elle disait trop rien. Elle savait bien que les hommes ont besoin de se retrouver entre eux. Jean, à la maison, il était encore bien amoureux, et ma foi, il aimait ça, et elle aussi. Et même, il continuait à l'emmener au bal, et il ne dansait qu'avec elle. Les autres au travail, ils insistaient. « Alors le Jean, avec toutes vos galipettes, il n'y en a pas un en route, tu n'y arrives pas, tu veux qu'on t'aide ?» C'est sûr, les hommes, des fois, c'est pas bien malin. Ça peut même être méchant quand c'est jaloux. Le Jean, il rentrait sa colère. C'était pas un bagarreur, ça le fracassait, cette histoire. Alors il s'est mis un peu à boire avant de rentrer. Et quand il prenait Marie, il y avait moins de caresses, moins de tendresse. Il allait un peu fort, un peu vite. Un soir, en rentrant du travail, Jean n'a rien dit. Ou plutôt, il a regardé ce que Marie, elle avait préparé ce soir-là. Et Marie avait préparé des saucisses avec de la polenta. La seule chose que Jean ait dite, c'était « Ma mère, elle les préparait toujours avec de la purée, les saucisses. T'as passé une bonne journée, mon Jean ? Oui, et puis de toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire ?» Ce soir-là, Jean a mangé sans dire un mot. Sitôt sa dernière bouchée avalée, il a filé sans dire où il allait. Et quand il est rentré, Marie était déjà couchée. Tout de suite, elle a senti le mauvais vin quand il s'est affalé. Elle a fait semblant de dormir. Et ça valait sans doute mieux pour elle. Un soir, Marie a osé poser la question à son Jean. « Qu'est-ce qui se passe, mon Jean, tu m'aimes plus ?»«
Mais bien sûr que si, je t'aime. Sinon, je me serais pas mariée avec toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça te va comme ça ?»
Ça lui allait pas trop à Marie. Ça lui allait pas trop. Quelques jours plus tard, quand Jean est rentré du travail, il a trouvé une table préparée exactement comme aurait fait sa mère. Ça, cette fois-là, Marie s'était pas trompée, hein. Elle avait bien fait la purée avec les saucisses et pour le dessert, crème brûlée avec juste la petite croûte qui croustille sur le dessus et elle a servi son Jean. Elle l'a servi sans rien dire. Elle lui a servi à boire. Et encore à boire, et encore à boire. Si bien qu'à la fin du repas, le Jean, avec la chaleur, le vin, il s'est endormi sur place. C'est ce qu'elle voulait, Marie. C'est ce qu'elle voulait. Elle a enfilé son manteau, et sans faire de bruit, elle est sortie. Elle a remonté toute la grande rue du village sans qu'on la voie. Et puis elle a pris à gauche le petit chemin de pierre, celui qui longe la rivière. Et elle s'est arrêtée devant une petite maison. Dans la petite maison vivait la Louise. Et la Louise, c'était une de ces femmes, à moitié sorcière, vous savez, une de ces femmes qui font crever les chèvres du voisin, ou alors qui font tarir le lait des vaches de l'autre, une de ces femmes qui font venir les bébés, ou au contraire qui les font passer quand c'est pas le moment d'en avoir. Une de ces femmes qu'on va chercher quand quelqu'un a trop de mal à passer la nuit alors qu'on sait que c'est son heure. Enfin, une de ces femmes dont tout le monde a peur, mais dont tous les villages ont besoin. Et Marie, elle était là devant la porte. Elle s'apprêtait à frapper quand elle a entendu « Rentre donc, Marie, je sais que t'es là !» Alors Marie est entrée. Il y avait du feu dans la cheminée. « Ben ferme donc la porte, chauffe pas pour dehors. Alors pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu veux ?» Marie, alors, a raconté avec ses mots de femme blessée, avec ses mots de femme amoureuse, elle a raconté son Jean d'avant, son Jean des tendresses, son Jean des caresses, et puis elle a raconté son Jean de maintenant, son Jean qui sent le mauvais vin, son Jean qui commence à lui faire peur. « Dis-la, Louise, tu pourrais pas me faire une poudre ou une potion, enfin quelque chose que je mettrais dans la soupe et que ça me rendrait mon Jean d'avant ?»« Tu pourrais pas faire ça pour moi ?» dis, s'il te plaît.
« Mouais, je pourrais. »«
Mais t'inquiète pas, la Louise, j'ai de l'argent qui me vient de ma mère, je te paierai. »«
Tiens, c'est pas de l'argent que je veux, c'est pas de l'argent. »«
Je voudrais que tu me rapportes 3 poils de loup. »« Mais attention, hein, pas 3 poils de loup que t'aurais pris sur des barbelés ou des écorces d'arbres, non. »« Non, je voudrais que tu me rapportes 3 poils de loup vivant. » que t'auras pris sur le dos du grand loup gris. »
En entendant ça, Marie a pâli.
Bah, « Comment tu veux que je fasse ?»«
Eh, tu veux récupérer ton Jean ou tu le veux pas ?»
En rentrant chez elle, Marie n'a pas dormi. Elle a réfléchi pendant 3 jours. Elle a réfléchi pendant 3 nuits. Et au matin du 4e jour, on l'a vue quitter le village pour s'en aller vers le village d'à côté. Elle portait un grand sac, vide, sur l'épaule. Et puis on l'a vue passer dans l'autre sens et se diriger vers la forêt. Elle avait un grand sac, plein, sur l'épaule. Et là, Marie, elle est allée au bout du bout de la forêt, auprès du grand buisson. Celui qui cache la tanière des loups. Arrivée là, Marie a vidé son grand sac. Dans le sac, il y avait un quartier de viande. Marie s'est reculée de 30 pas, cachée derrière un arbre. Elle a attendu que les loups rentrent de la chasse. Quand ils sont arrivés, en tête, il y avait le grand loup gris, le chef de la meute. Il s'est arrêté, a reniflé. Il a bien senti qu'il y avait quelque chose de pas normal. Il s'est approché du quartier de viande. Il a tourné autour. Et pour finir, il l'a mangé. Dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, Marie, elle est allée au bout de la forêt, près du buisson, celui qui cache l'entrée de la tanière des loups. Et tous les jours, elle a vidé son grand sac. Et tous les jours, le grand loup gris est venu. Et tous les jours, il a tourné autour du quartier de viande et puis il l'a mangé. Tous les jours qui passaient, Marie se rapprochait d'un pas. D'un pas. Jusqu'au jour où le grand loup gris, il a mangé là, à ses pieds. Alors, le lendemain, Marie a osé. Elle a osé tenir la viande dans sa main. Quand le grand loup gris est venu manger dans sa main, elle a osé poser son autre main là, juste entre les deux oreilles, au-dessus des 2 grands yeux jaunes qu'il a regardés. Quand elle a tiré, le loup a à peine sursauté. Marie a lâché le quartier de viande doucement et puis elle s'est reculée doucement.
quand elle a été suffisamment loin, elle s'est retournée et elle s'est mise à courir, courir. Ce jour-là, elle s'en fichait bien qu'on la voie aller chez la Louise. Elle est arrivée. Elle a ouvert la porte en disant « Ça y est, la Louise, je les ai !» La Louise, elle a pris les poils de loup, elle les a regardés. Elle les a reniflés, elle les a touchés. Puis elle a regardé Marie. « Comment que t'as fait ?» Marie, alors, a raconté qu'elle avait vendu les bijoux de sa mère et qu'avec l'argent, elle avait été acheter des quartiers de viande chez un fermier du village d'à côté et que tous les jours, depuis des semaines, elle allait au bout de la forêt, près du buisson, celui qui cache l'entrée de la tanière des loups, et que tous les jours, le grand loup gris venait, et que tous les jours, depuis des semaines, le grand loup gris, il avait mangé le quartier de viande, et que ce matin, il l'avait mangé dans sa main à elle. « Dis, la Louise, tu vas me la faire, la potion ? Tu vas me la faire, ma poudre ? Tu vas me le rendre, mon Jean d'avant, s'il te plaît ? » ?»« Dis donc, toi !» Il t'en a fallu du courage, et puis de la patience, et puis de l'astuce et de l'endurance pour faire ce que t'as fait là. Alors, tu crois que ce que t'as fait avec un loup, tu pourrais pas le faire avec un homme ? En entendant ça, Marie, elle a redressé la tête. Je peux vous dire que ce matin-là, quand elle est rentrée chez elle, elle marchait droit, et elle savait quelle était sa route. Nous, on ne sait pas comment elle a fait, mais toujours est-il que, un peu plus tard, Marie, elle s'est retrouvée avec un petit dans le ventre, et Jean et elle, ils ne se sont plus quittés.
Le vanier. Le père Léon, ma foi, ça faisait déjà longtemps qu'il ne travaillait plus. De temps en temps, il donnait la main à la ferme avec son petit-fils, mais il était trop fatigué pour ça. Alors, le père Léon, il se promenait et puis on le voyait avec ses brins d'osier. Il avait un coin favori au bord de la Durance. Et il faisait des paniers. C'était un artiste en son genre. Ces paniers, ma foi, il les échangeait contre un poulet, un lapin, et quelquefois aussi quelques sous. Ce jour-là, le père Léon, il s'assoit sur une souche de saule au bord de la Durance, dans son coin favori, là où trempent ses brins d'osier à l'abri du courant. Et en prenant son premier brin, il se dit « Ah, mais aujourd'hui, si j'essayais de faire un panier ovale ?» Faut dire que jusque-là, il n'avait fait que des paniers ronds. Et le voilà qui commence son ouvrage, brin dessus, brin dessous, brin dessus, brin dessous. Et puis, il met le début, l'ébauche, devant ses yeux, il vérifie. L'ovale est parfait. Alors il continue. Oh ben depuis le temps, il travaille vite. Il choisit bien ses couleurs, cependant. Une œuvre d'art, tout simplement. Il commence à monter les bords. Et là, sur le sentier, il y a un homme qui se promène. Oh, un homme de la ville, parce que lui, c'est pas chapeau noir, chemise à carreaux, pantalon de velours comme le père Léon, non. Lui, c'est chapeau haut, redingote et même souliers vernis au bord de la Durance. Et quand il voit le père Léon, il s'arrête. « Bonjour, brave homme. Oh, mais il a l'air beau, ce panier. Moi, je vais me promener là un petit moment. Est-ce qu'au retour, s'il est terminé, vous pourriez me le vendre ?» Bon, le père Léon, il a répondu « Bonjour ». Et puis,
C'est selon ?
Comment ça, c'est selon ?
Ben oui, c'est selon.
Il se gratte la tête.
C'est que...
Et là, le citadin reprend, ce serait pour offrir à ma femme quand je rentre.
Bon, ben si vous voulez, ce serait 35 sous.
35 sous, d'accord.
Et le voilà reparti tout à sa promenade. Le père Léon, son ouvrage, il le contemplait de temps en temps, il avançait vite. Et là, il en était presque à Lens. Et Lens, c'est un moment délicat. Il faut que ce soit bien solide, bien pris. Alors, il était tout à son affaire.
Ou il n'avait même pas vu l'heure tourner. Il avait de quoi, de toute façon, grignoter dans sa musette.
Il avait presque terminé quand l'homme de la ville, là, il est revenu. Il s'est mis devant lui, il a dit « Ah, ben, je vois que vous avez terminé. Ben, » Le père Léon, il mettait la dernière touche à son panier, il l'a mis devant ses yeux, il l'a regardé, il était content. L'homme l'a regardé, il a dit « C'est un beau panier. » Le père Léon, il n'a pas dit que c'était son premier panier ovale, mais il était content de lui. Puis l'homme, il a repris, mais je pense à une chose, moi, c'est que si j'offre ce panier à ma femme, il y a ma mère, ma sœur, et puis même ma belle-mère et ma belle-sœur, qui vont être jalouses. Est-ce que vous pourriez m'en faire 4 autres identiques ?
Oh ben, le père Léon, il a dit oui, si vous voulez, mais pas tous aujourd'hui.
Non, bien sûr, mais alors, si je vous en prends 5, à combien vous me les feriez ?
Oh, ben le père Léon, il s'est gratté la tête sous le chapeau, il a réfléchi, et puis il a dit, ben, pour 5, ce sera 40 sous l'un.
Ben, comment ça, 40 sous l'un ? Si je vous en prends, c'est 35 sous ? Et 40 sous l'un, si je vous en prends 5, mais c'est contraire à toutes les règles des affaires.
Ben, je comprends pas.
Ben, le père Léon, cette fois-ci, il l'a regardé bien en face. Et puis il lui a dit, ben, vous savez, si je vous fais un panier, ben, quelque part, c'est mon plaisir, c'est mon loisir, c'est une œuvre d'art. Mais si je vous en fais 5 identiques, c'est du travail à la chaîne. Et ça se paye.